et chers auditeurs, bonjour. Nous commençons une nouvelle série, CD numéro 1, et le thème d'aujourd'hui sera le double message de la croix. Nous sommes le 20 juin 2019. Et comme vous le savez, j'ai un âge certain, ou un certain âge, évidemment, avec 92 ans. Mais essayons quand même de travailler pour le Seigneur comme si on avait 40 ans. Le double message de la croix, c'est donc pour aujourd'hui. Il est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 20, « Il a voulu, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. » Colossiens chapitre 1, verset 20. Le prophète Ésaïe nous déclare que l'homme de douleur, Jésus-Christ, n'a pas souffert et livré sa vie pour lui-même, mais pour ceux qui s'étaient égarés loin de Dieu. Il nous le montre comme étant une offrande pour le péché par la volonté du Père, auquel il a plu de le briser, de le meurtrir pour nous. L'apôtre Paul reprend le même thème et il écrit aux Romains que Dieu lui-même a destiné Jésus pour faire la propitiation par la foi en son sang, le seul moyen qui lui resta d'effacer les péchés tout en exerçant sa justice aux yeux d'un monde coupable. Romains chapitre 3, verset 25. Dieu n'a donc point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous, car il est écrit que Dieu lui-même était en Christ, réconciliant le monde avec lui, le Père et le Fils étant un. Il faut que des messagers équipés et envoyés par le Saint-Esprit lui-même aillent partout pour proclamer la bonne nouvelle. Il faut que ces ambassadeurs du Fils de Dieu, rachetés, aillent supplier les âmes qui périssent d'accepter le pardon qu'il leur offre, comme si Christ lui-même les supplia en disant « Soyez réconciliés avec Dieu ». L'apôtre Paul écrit aux Colossiens et il leur dit « Ayant fait la paix par le sang de sa croix, vous qui étiez jadis séparés de Dieu, ennemis de Dieu, par vos mauvaises actions, vous avez été réconciliés par la mort de son Fils en son corps charnel. » Écoutez ces mots. Ayant fait la paix par le sang de la croix du sacrifice de Christ alors qu'il a été le seul pour fouler au pressoir et que personne ne le soutenait. Et encore ces mots, en son corps charnel, ces mots nous présentent le Sauveur et les sauvés comme faisant un seul corps. Sous ce dernier aspect, nous voyons dans le second Adam le représentant de l'homme et par sa mort, tous ceux qui lui sont unis par la foi. Ils ont souffert la peine de leur péché et sont réconciliés. Ils sont rachetés avec Dieu par lui, par Jésus-Christ. L'apôtre continue en ces mots, afin de vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. La croix est la porte par laquelle passe l'âme réconciliée, l'âme qui a été rachetée, pour entrer dans une autre sphère, où elle présente au Père en Christ saint, irrépréhensible en plus et sans reproche devant lui. Donc ceux qui ont ainsi passé par la croix meurent à leur ancien péché. Nous devons mourir à nos anciens péchés. Leurs mauvaises actions qui les séparaient de Dieu sont maintenant derrière eux, car ce n'est pas pour continuer à vivre dans le péché que Dieu les a réconciliés avec lui. Et voilà pourquoi le message de paix par le sang de la croix et de réconciliation par le corps de Christ renferme le message de la délivrance de la puissance du péché. En d'autres termes, nous recevons la délivrance de l'esclavage du péché en même temps que la rémission des péchés passés, comme le déclare l'apôtre Pierre. Voyez-vous, lorsque dans sa première épître, il parle des souffrances de Christ, il dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions à la justice. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. La version révisée est encore plus frappante, car elle dit que Christ a fait monter nos péchés avec lui sur la croix, où nous devons les laisser clouer à jamais, au lieu de continuer à pécher. Je répète, Jésus-Christ a fait monter nos péchés avec lui sur la croix, où nous devons les laisser clouer à jamais, au lieu de continuer à pécher. L'union du croyant avec le Sauveur sur la croix, est donc clairement affirmée par l'apôtre. Ayant fait la paix par le sacrifice expiatoire de sa mort, le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix de sorte que en lui, nous sommes morts à ses péchés et à la puissance qu'ils avaient sur nous. Et à présent, nous pouvons vivre en nouveauté de vie par la puissance du Saint et du Juste qui habite dans nos cœurs. Lui donc, Jésus-Christ, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, oui, nombreux entre nous, moi y compris, 5 fois, j'ai été pas seulement guéri, mais on peut dire presque renouvelé dans la chair, d'une façon où j'étais à l'article de la mort plusieurs fois. Alors donc, je répète, lui, Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, ajoute l'apôtre, citant ainsi la prophétie d'Ésaïe, rappelez-vous, et rattachant ainsi à cette croix entrevue de loin la délivrance du péché et de son esclavage. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. C'est l'agneau de Dieu qui a été froissé et navré pour nos forfaits, pour nos manquements, de manière à ce que la puissance de guérison qui était en lui puisse nous être communiquée à nous qui croyons qu'il a porté nos péchés sur la croix et qui en lui nous sommes morts à ses péchés, à nos péchés, pour vivre pour Dieu. Tel est donc le message du calvaire révélé à l'apôtre Paul par le Seigneur ressuscité et confirmé par les paroles de l'apôtre Pierre. L'Église a fait une perte incalculable en séparant ces deux aspects de l'œuvre du calvaire dans sa proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Bien plus, l'apôtre Paul n'a nullement enseigné que la délivrance du péché a été l'expérience des plus avancées, puisque lorsqu'il écrivait aux convertis de Rome, il semble leur parler de la mort avec Christ comme d'une expérience élémentaire et sans laquelle ils n'avaient aucune base solide pour réaliser la vie nouvelle, c'est-à-dire le salut. Le salut, cela veut dire être mort avec Jésus-Christ. Nous devons donc être crucifiés avec Christ afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, selon Romains, chapitre 6, verset 6. Vous remarquerez que je cite les citations bibliques et que tous ces messages sont 100% bibliques. Pour autant, évidemment, qu'on croit au Saint-Livre. Ce n'est pas de la religion simplement, bien que j'ai rien contre la religion, absolument pas, mais c'est la sainte parole de Dieu. Alors il est dit, à plus forte raison maintenant, que nous sommes réconciliés par son sang, serons-nous sauvés par sa vie, écrit Paul aux Romains, pour leur exposer le merveilleux plan de Dieu qui veut que tous ceux qui ont ainsi été réconciliés et justifiés par son Fils arrivent à régner dans la vie. Romains chapitre 5, verset 17. De même que le péché a jadis régné sur eux, de même il faut que maintenant la grâce règne sur eux par Jésus-Christ. Il est vrai que j'ai déjà cité tout cela dans de nombreux CD, il y en a plus de 2000, mais en une semaine, il arrive que certains très âgés comme moi oublient certaines choses importantes. Et ça peut arriver surtout quand on est très âgé. Du reste, n'y a-t-il pas de plus en plus de gens qui, à partir de 50 ans déjà, attrapent une maladie terrible qui s'appelle Alzheimer? Même une starlette qui s'appelle Robin a dernièrement été atteinte d'Alzheimer. Et beaucoup d'autres. Mais ajoute l'apôtre, quelqu'un dira peut-être, continuant à pécher, pourquoi pas, Romains chapitre 2, verset 6, et il dit cela afin de faire abonder la grâce. Mais écoutez la suite. Loin de là, s'écrie l'apôtre indigné, la mort de Christ et la libre grâce de Dieu ne pourront jamais donner la main au péché. Romains chapitre 6, verset 2. Au contraire, puisque par la mort du Fils de Dieu, nous sommes morts, comment pourrons-nous vivre encore dans le péché? Je répète. Au contraire, puisque par la mort du Fils de Dieu, nous sommes morts, et comment pourrons-nous vivre encore dans le péché? L'apôtre de la croix parle avec une conviction émue et profonde. Lui à qui Jésus lui-même, Jésus, avait révélé le sens de son œuvre expiatoire et qui, à la lumière de la croix, avait compris la gravité de la chute et l'horreur du péché. Il n'avait fallu rien moins que la mort du Fils unique du Père, et cela après d'infinies souffrances, pour sauver les pécheurs perdus. L'apôtre dit, quoi? Continuer à pécher, alors que Christ était mort pour nous délivrer du péché? Dieu nous en garde. Je répète, l'apôtre dit, quoi? Est-ce que nous allons continuer à pécher? Alors que Jésus-Christ était mort pour nous délivrer du péché, Dieu nous en garde. Oui, le péché a abondé, mais la grâce a surabondé pour délivrer le pécheur de ses chaînes. Être crucifié avec Christ, voilà donc le secret de la délivrance de cet esclavage. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ils l'ont été en sa mort. Par ce baptême, ils ont été pour ainsi dire ensevelis dans sa tombe, afin que de même que Christ en sortit vainqueur, ils puissent regarder sa croix et son tombeau comme un grand abîme entre le présent et le passé, et surtout, et sortir eux aussi, de sortir enfin vainqueurs pour marcher en nouveauté de vie. Lisez Romains chapitre 6, verset 4. Et là, je dis avec vous, merci Seigneur. Il est évident que ceci suppose une union réelle et intime avec le Seigneur en sa mort. Or, un consentement de l'Esprit seulement ne peut produire une union réelle avec le ressuscité. Il faut que par le Saint-Esprit, le croyant soit uni avec le Sauveur par une mort semblable à la sienne. Romains chapitre 6, verset 5. Et là où cette union existe, il réalise la puissance de sa résurrection, et le croyant sait qu'il a été crucifié avec Christ. C'est donc ainsi qu'il n'est plus sous la puissance du mal et l'esclave du péché, donc on peut dire, selon Romains chapitre 6, verset 6, « Car, est-il dit, car celui qui est mort avec Christ est maintenant libre de tout péché. » De plus, la mort de Christ n'apporte pas seulement une délivrance négative en nous libérant du joug du péché, mais elle nous donne la vie de Christ qui, après avoir triomphé de la mort et du tombeau, agit en nous par lui-même. Si nous mourons en réalité à notre vieille nature, eh bien nous vivons avec Christ partageant sa vie, c'est-à-dire la vie pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 10. Et cette vie, c'est une vie débordante, une vie triomphante, à laquelle l'œuvre de la croix doit aboutir, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Romains chapitre 6, verset 10. De même, ceux auxquels l'apôtre écrivait devaient se regarder comme morts au péché avec lui, avec Jésus-Christ, et refuser catégoriquement de se laisser remettre sous le joug, puisqu'ils étaient dorénavant sous, on peut dire, ils étaient vivants maintenant, pour Dieu le Père, et tout cela en et par Jésus-Christ. En demeurant en lui, ils arriveraient à une vie de victoire par Jésus-Christ. Mais ces vérités ne devaient pas en rester à l'état de théorie seulement. Il fallait qu'elles fussent mises en pratique. Comment peut-on être vraiment crucifié avec Christ et en même temps céder à la tentation de faire de ses membres des instruments de péché? Ce serait, comme dit l'apôtre Paul, avoir reçu la grâce en vain. Oui, en vain, pour expérimenter la pleine délivrance par la croix du calvaire, il faut non seulement accepter joyeusement de mourir avec le crucifié, mais il faut que vous vous offriez à Dieu, à Dieu comme étant vivant, vivant de mort, que vous étiez, que nous étions. Romains chapitre 6, verset 13, et que vous marchiez en nouveauté de vie. Mais ici se pose une question. La grâce qui nous a rendus libres ne risque-t-elle pas de dégénérer en moyen de licence, en moyen de péché? Romains chapitre 6, verset 15. Loin de là, à Dieu ne plaise, s'écrie l'apôtre. Ne savait-il pas se libérer que la transformation opérée par l'union avec Christ sur la croix était une véritable révolution au centre même de leur être, que ainsi ceux qui avaient fait l'expérience de la mort avec Christ étaient devenus obéissants de cœur à la règle de doctrine qu'ils avaient reçue. Romains chapitre 6, verset 17. Et c'est avec joie que par cette vie nouvelle, ils étaient venus serviteurs de Dieu au lieu d'être esclaves du péché et offraient joyeusement leur corps pour devenir esclaves de la justice. Dans ce chapitre 6 des Romains, nous voyons clairement la puissance de séparation d'avec le péché opérée par la croix du calvaire qui a enlevé, carrément enlevé, la culpe, c'est-à-dire le noyau du péché et sa puissance dans le cœur et dans l'esprit. L'apôtre exhorte donc les chrétiens de Rome à recueillir le fruit de l'amour du Sauveur par un acte décisif de foi et de volonté. Il leur rappelle du reste qu'ils sont morts avec lui, avec Jésus-Christ, par une mort semblable à la sienne, se regardant comme étant crucifié avec lui et vivant dès lors pour Dieu en lui, oui, en Jésus-Christ. Mais dira sans doute quelques âmes découragées, et il y en a, je me suis regardé comme mort au péché, et pourtant, ah oui, peut-être as-tu regardé à toi-même, pauvre âme, au lieu de regarder à Jésus. Le Saint-Esprit ne rendra témoignage à votre esprit que dans la mesure où vous regarderez à Christ plus qu'à votre acte de foi tout petit. Oui, détournez donc les yeux de vous-même pour les tourner vers le calvaire. Le Seigneur Jésus est mort à notre place et il vous a porté avec lui sur la croix. La question est donc celle-ci. Êtes-vous parfaitement décidé à abandonner leur péché, à abandonner tout péché connu, et à passer ainsi par la mort avec Christ? Dites oui, je le veux. Eh bien, dans ce cas, regardez-vous dorénavant comme étant cloué à la croix avec votre Sauveur crucifié. Que le péché ne règne donc plus du tout en vous, je le prends par la foi. Dieu la réalisera pour vous et en vous, tout cela en manière à ce qu'elle devienne une réalité. Romains chapitre 6, verset 14. Caché en Christ sur la croix et uni à lui dans sa vie, ce qui nous reste à faire, mes chers enfants, c'est de choisir continuellement à qui vous voulez obéir, car vous êtes les esclaves de celui auquel vous vous livrez, selon Romains chapitre 6, verset 16, évidemment. À l'heure de la tentation, il s'agit donc de vous rendre immédiatement au pied de la croix et de vous cacher en celui qui nous y a portés avec lui. Et cela de façon à résister héroïquement à celui qui voudrait vous en faire sortir. N'essaye pas de lutter contre ce qui t'arrive tout seul, mais remets-lui toutes choses à Jésus. Oui, ta vie, et tu feras l'expérience qu'il te gardera et te donnera la victoire sur toutes choses. Maintenant que tu as été délivré de l'esclavage du péché et enroulé au service de Dieu, il s'agit que tu te places dans une position franche et droite vis-à-vis du péché et que tu ne craignes pas de l'appeler par son nom. Sois donc résolu à obéir au Sauveur en tout point et de faire tout ce qu'il te demandera. Que chaque assaut de l'ennemi, que ce soit dans l'épreuve ou dans la tentation, te pousse à chercher la lumière de sa face divine, de sorte que tu vois les choses comme il les voit. C'est ainsi que tu marcheras dans la lumière comme lui, et se trouve dans la lumière. Jésus, il se trouve dans la lumière, puisqu'il est la lumière. Alors aussi le sang de Jésus-Christ, son Fils, te purifiera de tout péché. Et si quelqu'un a péché, eh bien nous avons, est-il dit, un avocat auprès du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, le juste. Oui, lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour tous ceux du monde entier. Avant d'arriver à désirer la délivrance, il faut d'abord sentir le poids de nos chaînes. Et ceci, évidemment, nous conduit au chapitre 7 des Romains et à la nécessité de la proclamation de la loi. Oui, la croix et la loi, l'apôtre Paul dit en Romains, chapitre 7, versets 4 et 6, l'apôtre Paul dit, « Mes frères, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi par le corps de Christ pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. » J'ai dit Romains chapitre 7, versets 4 et 6. La délivrance par la mort est ici encore le message de l'apôtre. La croix du calvaire est donc le moyen de la réconciliation avec Dieu et de la délivrance de la puissance du péché. Celui qui est crucifié avec Christ meurt avec lui, non seulement à l'esclavage du péché, mais à celui de la loi qui exigeait du pauvre pécheur une obéissance qui lui était impossible et qui le retenait dans les liens de la mort. La pensée de l'apôtre telle qu'elle est développée dans les chapitres 5, 6, 7 et 8 des Romains, eh bien, cela se trouve parfaitement d'accord avec les faits de l'expérience actuelle dans la vie chrétienne. Ce groupe de chapitres, il ne se comprend que lorsqu'on a passé, pour ainsi dire, par les mêmes expériences que l'apôtre, et qu'on peut ainsi se mettre à son point de vue lors de cette lettre aux chrétiens de Rome. La loi, elle a été donnée, déclare-t-il, afin de faire abonder le péché, c'est-à-dire de révéler la présence du péché et sa gravité, afin que Dieu peut faire surabonder son amour et sa grâce. Et cela, tout cela, afin que de même que le péché avait régné sur le pauvre pécheur, de même aussi le don de la libre grâce divine a pu régner et triompher dans l'âme rachetée. L'apôtre nous fait voir que le seul moyen de délivrer le pécheur de ses chaînes, c'est la mort de Jésus-Christ, ouvrant le chemin à la grâce. Car le salaire du péché, c'est la mort, et la dette doit être payée, la sentence doit donc être prononcée, et c'est précisément par la mort de Christ, comme notre représentant, que cette condamnation a eu lieu, mettant fin au règne du péché pour ceux qui sont vraiment morts avec le Christ crucifié. Le croyant meurt donc aussi à la loi qu'il avait condamnée à mort. Uni au Christ en sa mort, le croyant meurt à la loi par le corps de Christ et dès lors échappe. Il échappe au droit qu'elle avait sur lui. Il n'est plus tenu par l'ordre qui dit « Fais ceci et ne fais pas cela. » Car dans la nouvelle sphère où il est entré par sa mort avec Christ, il sert le Seigneur dans un esprit nouveau, et cela d'une manière nouvelle, avec une joie inconnue jusqu'ici, et il n'est plus esclave de la lettre de la loi. Romains chapitre 7, verset 6. Une autre question se pose ici. Dirons-nous que la loi donnée par Dieu est une cause de péché? Romains chapitre 7, verset 7. L'apôtre s'écrie de nouveau, « Non, certes, à Dieu ne plaise. » Et il entreprend de nous expliquer la raison d'être de cette loi qui doit amener l'âme à reconnaître son incapacité propre et à accepter avec joie la délivrance que lui apporte le Sauveur crucifié. La mort avec Christ ne devient une bonne nouvelle que pour ceux qui ont renoncé à se délivrer par eux-mêmes. La loi est donc le maître d'école qui nous amène à Christ. Ensuite, l'apôtre nous décrit, d'une manière graphique et tragique, la lutte qui déchire l'âme qui, tout en désirant faire la volonté divine, n'a pas encore compris et pris la délivrance du péché par la mort avec Christ, tel que l'apôtre Paul vient de le dépeindre. Quel qu'ait été le but premier de l'apôtre lorsqu'il écrivait le chapitre 7 des Romains, ce qui est certain, c'est qu'il nous y fait un tableau magistral de ce que est l'homme, moi et vous, sous la tyrannie du péché, et qui pourtant désire accomplir la volonté de Dieu. Là, nous y voyons comment la loi amène l'âme au lieu du supplice, à cette mort qui est la fin, qui est la cessation de la lutte, alors que, ne pouvant plus combattre, elle s'écrie avec désespoir, « Qui me délivrera ?» Par la loi, je suis mort à la loi, s'écrie l'apôtre, afin de vivre pour Dieu. Romains 7. Il est donc facile de discuter le septième chapitre de Romains, au point de vue théorique seulement. Mais si nous sommes résolus à briser nos propres chaînes, nous comprendrons sans peine la réalité de cette image et l'amertume de l'expérience qui s'y trouve si admirablement décrite. Jetons maintenant un simple coup d'œil sur le passage suivant pour comprendre comment la loi agit dans l'âme pour lui montrer son incapacité, son impuissance totale et par là même, pour lui faire accepter la délivrance par le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai connu le péché que par la loi. Romains, chapitre 7, verset 7. Ces paroles nous font voir que la loi nous a été donnée pour nous montrer ce que est le péché. Par exemple, Dieu a dit, « Tu ne convoiteras point. » Or, avant ce commandement, l'âme ne savait pas ce que est la convoitise. La loi a été donnée pour nous montrer l'antagonisme du péché contre la volonté divine. Mais le péché, ayant saisi l'occasion, a produit en moi toutes sortes de convoitises par le commandement, car sans la loi, le péché n'existe pas. Romains chapitre 7, verset 8. Quelle image frappante et réelle de tout cœur humain. Et dès qu'on nous défend la convoitise, eh bien nous voilà immédiatement prêts à enfreindre la défense. Le « tu ne feras pas » et « tu ne diras pas » éveille dans notre pauvre cœur naturel et déchu un antagonisme effrayant contre la sainte volonté divine, car l'esprit charnel n'est pas d'accord avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 7. En dehors du commandement légal, le péché est mort et il n'y a plus ni lutte ni antagonisme. Aussi longtemps que les hommes suivent leur propre chemin et accomplissent tous leurs désirs charnels et leur propre volonté, il n'y a pas de lutte, pas de combat en eux, mais dès qu'ils sont en face de la loi divine et essayent de l'accomplir, voilà que le péché s'éveille en eux et leur fait faire toutes sortes d'actions contraires à la loi de Dieu. Ainsi donc, la loi a été donnée, oui, pour l'homme, pour nous tous, pour que nous puissions apprendre à nous connaître mieux et avoir l'antagonisme latent ou non. Que referme son cœur naturel contre Dieu? La loi a été donnée donc pour nous faire mourir, selon Romains chapitre 7, verset 9. Car autrefois, j'étais sans loi. Jadis, autrefois, j'ignorais les droits de Dieu sur moi et je vivais sans loi. J'imaginais que tout allait bien lorsque tout à coup je me rencontrais et face à face avec le « tu feras et tu ne feras pas » quand j'ai rencontré cela de mon Créateur. Alors là, quelque chose en moi s'est éveillé et s'est mis à lutter contre la loi divine. Le péché reprit vie, alors qu'il avait sommeillé jusque-là, et je m'aperçus bientôt que j'étais incapable d'obéir. C'est donc par le commandement même de Dieu que le péché reprit ses droits et sa puissance sur moi. Et j'ai fait l'expérience qu'il était plus fort que moi, qu'il m'avait asservi, qu'il m'avait enchaîné et que je lui obéissais malgré ses conséquences mortelles. Le péché me donne donc la mort et il me montre que je n'avais rien d'autre à attendre que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Je répète, le péché me donne la mort et me montre que je n'avais rien d'autre à attendre et que le salaire du péché, c'est bel et bien la mort, c'est-à-dire l'enfer. Le commandement qui aurait dû m'aider à marcher avec Dieu n'a fait que m'enfoncer plus profond dans le mal et je suis mort. Verset 10 de Romains 7. La loi a donc été donnée pour manifester, pour démontrer la gravité du péché. Prenons Romains chapitre 7. La loi est sainte et juste et bonne, mais par le commandement, le péché apparut pleinement tel qu'il est. C'est écrit dans le verset 12 et 13. Par la sainteté de la loi, par l'exigence de la loi, le péché paraît ce qu'il est. Quel moyen merveilleux le Créateur a trouvé pour faire comprendre à sa pauvre créature aveugle ce que est le péché, et de plus pour lui faire sentir le besoin qu'elle a d'en être délivrée. Il faut en effet que le péché paraisse pleinement ce qu'il est, avant que nous arrivions à la haïr et à vouloir en être débarrassés. Il faut que nous sentions le besoin d'un sauveur ayant le pouvoir d'accepter et d'éradiquer le péché. Il faut avoir compris et senti la profondeur de la chute avant de pouvoir comprendre la nécessité du salut. C'est par le commandement saint, juste et bon, et par les vains efforts de l'homme pour lui obéir, que Dieu amène l'homme à se reconnaître lui-même et à son état de péché. La loi nous amène donc à mourir à nous-mêmes. En moi, c'est-à-dire en ma chair, n'habite rien de bon ? Est-il dit dans Romains 7, versets 13, 14 et 18 ? Quelle lutte terrible ! Quelle humiliation pour l'orgueil humain ! La loi est spirituelle, s'écrie le pécheur. Mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché, donc je suis esclave puisque je fais ce que je hais. Verset 15. Voyez-vous, le fait que je hais le péché prouve donc que mes yeux se sont ouverts pour voir la beauté et la sainteté de Dieu. Romains 7, verset 16. De sorte que je parais avoir deux hommes en moi. Je désire faire le bien, mais je suis totalement incapable de le faire. Verset 18, de sorte que dans une certaine, ou dans un certain sens, ce n'est pas moi qui pêche, mais le péché qui me domine et me tyrannise. Verset 17, je répète parce que c'est important. Le fait que je haïs, que je hais le péché, prouve donc que mes yeux se sont ouverts pour voir la beauté et la sainteté de Dieu. Romains 7, verset 16. De sorte que je parais avoir deux hommes en moi, je désire faire le bien, mais je suis totalement incapable de le faire. Verset 18. De sorte que dans un certain sens, ce n'est pas moi qui pêche, mais le péché qui me domine et me tyrannise. Verset 17. Quel terrible esclavage! Or, ce qui est certain, c'est que maintenant, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. Verset 18. Je me vois le plus grand des pécheurs et n'ai plus la tentation de me croire meilleur que d'autres. Au fait, y a-t-il jamais eu une âme enchaînée comme la mienne? Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je hais, je le fais. Verset 19. En somme, ce que je sais pour certain, c'est que lorsque je veux faire le bien, le mal me terrasse. Je prends plaisir à la loi de Dieu intérieurement. Verset 22. Mais je rencontre dans mes membres une loi qui est contraire et qui combat contre la loi de mon esprit. Verset 23. Et je reste esclave de la tyrannie de mon péché. Heureusement que Dieu accorde la délivrance à l'âme qui, dans son désespoir, n'attend plus rien de ses propres efforts. Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, c'est-à-dire du corps de cette mort. Verset 24. Je rends donc grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 25. Oui, la délivrance, elle est là. Elle est là pour l'âme fatiguée, désespérée et prête à se laisser délivrer. Le misérable que j'étais, il a crié au secours, et par ce cri même, il a confessé son incapacité à se sauver lui-même. Son orgueil est enfin brisé. L'homme intérieur qui désirait obéir à la loi divine n'a pu, malgré tous ses efforts, triompher de lui-même et de ses péchés. Jusqu'ici, il n'a pas encore saisi le plein message de la croix. Il n'a pas compris ni saisi sa mort avec Christ, et par conséquent, il n'a pu s'approprier l'affranchissement qui est en Christ et de la tyrannie, on peut dire, du péché et des exigences de la loi. Et cette lutte sanglante lui a fait voir ce qui lui manquait. Peut-être imagine-t-il que par le secours de Dieu, son homme intérieur pourrait plaire au Seigneur. Après avoir commencé par l'Esprit en acceptant la réconciliation avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, il s'est imaginé pouvoir croître dans la grâce par le bras de la chair. Ô pauvre misérable que tu es, comme tu le dis du reste toi-même, retourne au calvaire et vas-y pour puiser une autre force que celle que tu as, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit et la loi de l'Esprit de vie en Christ, qui elle seule peut t'affranchir par l'œuvre de Christ sur la croix. Si tu as été crucifié avec ton Sauveur, tu es mort avec lui, et tu es mort à la loi par le corps de Jésus-Christ. Cher ami, crois-tu cela? Crois-tu cela par la foi, en la puissance de Dieu? Colossiens 2, verset 12. Si tu crois cela, alors, dans ce cas-là, tu es dégagé de la loi. Tu es uni à celui qui est ressuscité des morts et, en t'abandonnant à lui pour que la loi de l'esprit de vie t'affranchisse, eh bien tu feras la glorieuse expérience de Romains chapitre 8, versets 2 et 3. C'est-à-dire que si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Alléluia. C'est alors seulement que tu comprendras que ce que la loi ne pouvait pas faire, Romains 8, verset 3, par le commandement extérieur, le Fils unique de Dieu qui est mort à ta place peut l'accomplir en toi. Et c'est ainsi que la justice prescrite par la loi et que tu n'as jamais pu atteindre sera accomplie en toi à mesure que tu te livreras à l'action de l'Esprit de Dieu et que tu ne marcheras plus par la chair, mais par l'Esprit Saint. Pauvre âme qui a vécu jusqu'ici sous le poids d'une condamnation continuelle, comprends enfin que ceux qui ont invoqué le saint nom du Seigneur Jésus et qui sont morts avec lui ne placent aucune confiance en eux-mêmes, mais en Christ Jésus uniquement. Ceux-là réalisent l'existence d'une loi nouvelle, c'est-à-dire celle de l'esprit de vie, qui les affranchit de la loi et de la puissance du péché. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, et c'est pourquoi soyez fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Galates chapitre 5, verset 1. Veillez donc et marchez selon l'Esprit Saint pas à pas et vous affectionnant aux choses de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 5. Par la puissance de l'Esprit de vie qui habite en toi, aie donc soin de faire mourir les œuvres du corps. Romains 8, verset 13. Et c'est dans cette voie que tu trouveras la vie, te laissant conduire jour après jour par l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'esprit de servitude disparaîtra pour faire place à l'esprit d'adoption par lequel tu t'écrieras, oui, tu vas dire, Abba Père. Et si tu sauras avec certitude que tu es un enfant du Père de Dieu, que tu es un héritier de Dieu et que tu es co-héritier de Jésus-Christ, si toutefois tu souffres avec lui, afin que tu sois aussi glorifié avec lui. Verset 17, Romains 8. Amen. Chers amis, vous l'avez compris, à 92 ans, 92 ans, avec deux béquilles pour marcher péniblement à cause du canal Lambert, coincé ou trop étroit, je ne peux évidemment pas marcher bien loin. Alors, une personne bien intentionnée, certainement, m'a dit, si vous n'allez pas, même à votre âge, même avec vos béquilles, même avec vos douleurs, continuellement à l'église, vous serez perdu. Je ne veux pas répondre à cela. C'est déjà pas très gentil de me dire ça. Mais sachez simplement que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit. Et si j'ai fait plus de 2000 CD en 4 ans, à mon âge, c'est certainement pas que j'aime pas mon Seigneur. Certainement pas. Il est facile de juger, mais nous devons faire attention de ne pas juger. Car Dieu seul est le juge pour l'éternité. Et nous paraîtrons un jour devant lui. Et il y en a qui seront étonnés. Enfin, vous savez, il y a des chrétiens dans toutes les dénominations chrétiennes. Il y a des véritables chrétiens. Ne croyez pas, parce que vous avez le privilège de faire partie d'une petite chapelle, que vous êtes les seuls saints au monde. C'est pas gentil de croire ça. Il y a des missionnaires dans des endroits pénibles et dangereux sur cette planète qui, au risque de leur vie, il y a des familles qui sont massacrées. Il y a des familles qui sont coupées en morceaux, même si vous ne le croyez pas. Ce n'est pas parce que les nouvelles suisses ou françaises ne le mentionnent pas que ce n'est pas vrai. Nous vivons les derniers temps. Nous ne vivons plus sous le temps de la grâce éternelle. Mais si vous faites des études approfondies de l'Apocalypse, eh bien, vous verrez que nous sommes dans la dispensation des jugements, et Dieu va juger ce monde. Il y a déjà des changements dans les températures. Encore ce matin, on vient de dire qu'ils ont trouvé des nanoparticules dans l'air, dans l'eau, et même dans la nourriture que nous mangeons, du plastique. Les poissons qui devraient nourrir des millions de gens meurent par le plastique. Il y a bientôt plus de plastique dans les océans que des poissons. Tout cela devrait nous parler, tout cela devrait nous inquiéter. Préparons-nous, vous et moi, pour être prêts pour l'enlèvement qui aura certainement lieu. Chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime, le Seigneur vous aime, et il est mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et là où vous vous trouvez, auprès ou au loin, je vous enlace maintenant tous et je vous embrasse avec tout mon amour et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je voudrais terminer simplement par la prière. Et ensuite, j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. Il y a plus de 50 ans, j'avais fait ces enregistrements avec un appareil à bande qui s'appelait le Revox et le Nagra. Ça n'existe plus, tout ça. Alors évidemment, ça a beaucoup perdu de sa netteté par les transferts sur CD, par les années, vous pouvez bien penser. Mais l'Esprit Saint se trouve dans ces chants. Prions. Yahvé l'Éternel, majesté du ciel et de la terre, je vous demande que par le précieux sang versé de votre Fils Jésus-Christ, je puisse maintenant être purifié et sanctifié dans mon corps et dans mon âme et dans mon esprit. Jésus-Christ permet, je t'en supplie, que ce ne soit plus mon âme et mon corps charnel qui dirige et qui décide de ma vie, mais que ce soit toi seul, par la puissance du Saint-Esprit, sur mon esprit, qui décide et qui dirige ma vie toute entière. Je te demande sincèrement, en ton saint nom, ainsi soit-il. Amen. Et maintenant, essayons, ça peut rater, si ces chants d'il y a plus de 60 ans que j'ai enregistrés, si ça fonctionne encore. Essayons.
He met people where they were, and one by one, he changed them. Bethlehem, he was born there. I believe. Galilee, Jesus walked there. I believe. Bethlehem, my Savior prayed there. On Calvary, he died alone. But the tomb Jesus left there. Bethlehem, he was born there.
I believe.
Galilee, Jesus walked there.